Un feu brillant crépite dans l'âtre de la cheminée. Votre fauteuil est si confortable. Vous êtes serein, détendu. Rien ne peut vous perturber. Comment peut-il en être autrement, après tout? C'est un jour comme les autres. Rien ne vient gêner le calme qui rythme votre vie. Le jour est sur le point de finir, et la nuit apporte un sentiment de mort inévitable et irréversible. Mais vous êtes à l'abri dans votre demeure. En êtes-vous si sûr? Avez-vous bien fermé votre porte à clé et verrouillé les loquets de vos fenêtres? Avez-vous tout bien fermé? Oui. Vous êtes en sécurité et votre volonté est forte. Il n'y a pas de place pour les superstitions dans votre esprit. Vous en êtes certain, mais est-ce vraiment le cas? N'en soyez pas si sûr. Quelque chose d'indéfinissable entre dans votre pièce. Une sensation qui vous glace le sang et le corps. Une chose qui fait battre votre cœur plus vite. Vous sentez ces battements puissants jusqu'au bout de vos doigts. Votre sang circule plus vite dans vos veines qui palpitent. Votre demeure, votre confortable demeure devient une crypte froide et sombre quand vient l'heure de Creepy Story. Pour vous servir, et vous écoutez l'épisode 46 de votre podcast horrifique préféré. Au programme de ce soir, laissez-moi vous servir trois histoires épouvantables à souhait, trois contes lugubres directement puisés dans mon vieux grimoire. Sans plus tarder, voici la première que j'ai intitulée « Tous humains ». La traînée blanche et lumineuse fut aperçue par beaucoup de gens dans le monde. Et c'est vrai qu'il faisait assez chaud ce jour-là. Tout a commencé par une banale petite altercation entre deux dames. L'une sortait de la boulangerie du petit village paisible où elles habitaient, tandis que l'autre était sur le point d'y entrer. Et sans le faire exprès, bien sûr, elles se sont rentrées dedans. Oh, je peux vous dire que le choc a été faible. Une légère collision au niveau de l'épaule, rien de plus. Mais ce fut suffisant pour qu'elle se dispute devant la boulangerie. Peu de temps après, un jeune conducteur qui regardait la scène heurta légèrement la voiture qui était devant lui. L'autre automobiliste sortit du véhicule et vint vers le jeune homme en hurlant des insanités. Et puis, tout est parti en vrille. Un passant voulant minimiser les dégâts et empêcher une bagarre fut mordu au visage par le conducteur plus âgé. En moins de 10 minutes, toute la rue était en effervescence. Quand certains se battaient, d'autres rouaient de coups des vieilles dames tombées au sol. Vers le début de la soirée, c'est tout le centre-ville qui était à feu et à sang. Cela dura toute la nuit pour se poursuivre le lendemain et s'étendre sur la commune entière. On retrouva des femmes dévorant le visage de leurs enfants, des maris vidant les entrailles de leurs voisins avec leurs mains. des jeunes découpant des membres de leurs camarades de classe en poussant des cris terrifiants. Ce chaos dura une semaine entière, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne dans le village à massacrer ou à tabasser. Les médias s'emparèrent du sordide fait divers et précisèrent que le cauchemar continuait dans la commune voisine. Deux semaines plus tard, la région entière était frappée par ce déluge de violence ultime. On envoya l'armée sur place pour régler le problème. Mais au bout d'un moment, certains soldats utilisèrent leurs armes sur leur propre régiment suite à une stupide embrouille au sujet d'une chaussure mal nettoyée après une mission. Ils en profitèrent pour tirer sur la foule en furie. La nouvelle fit le tour du monde. On commença à entendre ça et là des rapports de disputes ayant mal tourné dans plusieurs pays. Au bout d'un mois, trois des cinq continents n'étaient que chaos et destruction. À la télé, juste avant que le caméraman ne soit abattu, on pouvait voir des charniers de corps calcinés, des sols recouverts d'ossements humains et animaux, des hommes, des femmes de tout âge, la rage et la fureur dans les yeux, les lèvres retroussées sur des dents brisées et chercheuses de chair tendre à arracher, des mains aux doigts crochus grattant des visages ou des ventres qui n'étaient pas les leurs, dans l'optique de faire du mal, de dépecer ou de casser. Après 5 mois, seule une poignée de scientifiques et de dirigeants cachés sous terre purent se mettre d'accord et firent la conclusion suivante. Seule une bactérie extraterrestre pouvait être le catalyseur de cette folie. Malheureusement, ils avaient tort. Même si un petit astéroïde de la taille d'une balle de baseball avait atterri et qu'elle transportait avec elle des particules venues de l'autre bout de l'univers, des particules qui auraient pu, si on les avait trouvées synthétisées, guérir tout un tas de maladies humaines et animales. Mais tous étaient trop occupés à s'éventrer, se mordre, se déchirer ou se fracasser. Le vrai verdict était le suivant. Selon d'autres analyses, rien ne fut trouvé dans l'eau, ni dans l'air. Rien dans les cultures ou l'alimentation. Rien non plus dans le sang. Aucune modification d'ADN. Tout aurait pu s'arrêter en une heure. En une heure seulement. Mais nous sommes tous humains, après tout. Humains capables du meilleur. Et surtout, du pire. Vous connaissez tous l'adage populaire qui dit « L'homme est un loup pour l'homme, mais même les loups ont un code d'honneur. » Beaucoup pensent que notre fin viendra des étoiles ou que des phénomènes naturels causeront notre perte. Moi, je pense plutôt que nous serons notre propre autodestruction. Nous sommes notre némésis. Nous avons des moyens de nous détruire et nous aimons en profiter. Alors, la prochaine fois qu'un de vos semblables vous bousculera, n'essayez pas de lui arracher la carotide avec les dents. Prenez sur vous et calmez-vous. Respirez profondément. Suivez-le et faites ça plus proprement, à l'arme blanche par exemple. Après ces quelques conseils, voici la deuxième histoire que j'ai appelée « Trouble compulsif ». Une toupie. un pot de yaourt, une boîte de haricots verts. Pierre, c'est comme cela que nous l'appellerons, arpentait les ruelles sombres de Paris. Il est 23h30 et en ce mardi soir, il est encore dehors, dans le froid. Des gants à ses mains, écharpe au cou et sac à dos. Il a pris un grand sac poubelle de 130 litres ce soir. Il devait ramener un maximum de choses. Il avait besoin de beaucoup d'objets pour faire ce qu'il avait à faire. D'habitude, son sac à dos suffisait, mais là, il avait ce sac supplémentaire qu'il allait devoir remplir à ras-bord. Alors il fouille, il cherche, il retourne et soulève. Une brique de ciment de 40 cm de long, 3 packs de lait, un étui à lunettes. Il se dit que c'est déjà très bien. La nuit se poursuit et Pierre rentre chez lui. Son sac poubelle rempli à ras-bord. Il monte les deux étages pour arriver devant la porte de son petit appartement. Pierre vit seul. Personne ne veut vivre avec lui. Impossible, à cause de son problème. Il ouvre la porte avec difficulté. Il doit composer avec ses gants gênants et le grand sac de plastique qui manque de tomber à chaque tentative pour tourner la clé dans la serrure. Quand il y arrive, il a du mal à pousser la lourde porte bloquée par plein de choses au sol. Il rentre péniblement dans son appartement et referme cette porte aux multiples verrous intérieurs. Puis, sans même prendre le temps d'enlever son manteau et ses gants, il vide le contenu du sac poubelle sur le sol du salon, déjà recouvert de détritus. Il reste quelques secondes devant le monticule odorant et se dit qu'il a fait du bon boulot. Il se calme, redevient serein et va tranquillement se coucher sur le sofa crasseux de ce qui ressemble à sa chambre. Il s'endort sans cauchemar, du moins pour cette fois. Il est réveillé par les bruits du voisin du dessus. Il fait nuit dehors. Il se lève et va à la fenêtre. Dans le ciel, il aperçoit une vive lueur, une lueur qui devient de plus en plus forte. Jusqu'à le brûler vif. Sa chair fond subitement, faisant tomber sur le sol des lambeaux de peau et de matière rosâtre. Il hurle comme des millions d'autres hommes et femmes en même temps que lui. Puis il se réveille dans son sofa miteux. Il fait enfin jour. Il a eu encore une vision. Il a besoin de bouteilles plastiques vides, beaucoup de bouteilles. Il doit les ramener maintenant, sans plus tarder. Il doit les empiler au milieu de la pièce avec le reste des détritus. Sinon... Il ne veut pas y penser. Ça le stresse. Alors il sort avec son grand sac poubelle. Son voisin de palier le voit sortir de chez lui. Il ne lui dit pas bonjour. Ils sont en très mauvais termes. Son voisin se demande souvent pourquoi il n'a pas encore prévenu les services sociaux. Il sait que Pierre est malade, sinon pourquoi entasserait-il autant de choses comme ça chez lui? Il avait vu un cas identique sur Internet. Après plusieurs heures à fouiller les poubelles, Pierre rentre chez lui avec presque 50 bouteilles plastiques vides. Vides de matière, mais pas de sens. Oui, pour lui, tout ça, ça a du sens. Pas pour les autres, mais pour lui, oui. De plus, il sait qu'il n'est pas seul. Il a vu les autres dans ses rêves, des autres comme lui. La nuit suivante, il rêve. Et dans son rêve, des centaines d'animaux morts jonchent le parquet de son appartement. Il est assis sur le monticule macabre, nu, et il sourit. Au réveil, il sait ce qu'il a à faire. Alors, il fait le tour du quartier et ramasse tous les petits cadavres d'animaux qu'il peut trouver. Rats, souris, pigeons, chats écrasés. Certains sont desséchés, d'autres commencent seulement à pourrir. Il ne fait pas de tri. Il les ramène tous, sans exception. Puis il retourne chez lui. Sur le chemin, il se dit que ça doit bien faire 3 jours qu'il n'a rien mangé. Mais ça ne le dérange pas plus que ça. Il doit faire ce qu'il a à faire, sans perdre de temps, sans être distrait par d'autres choses. Il monte les escaliers pour rejoindre son appartement. Sur le palier l'attend sa voisine. Elle s'emporte de rage lorsqu'elle le voit arriver avec un autre sac dans les mains. Elle commence à lui hurler dessus. Pierre n'y porte pas attention. Se sentant humilié, la voisine donne un grand coup dans le large sac noir qui quitte les mains de Pierre pour venir étaler son contenu devant la porte de la voisine. Elle hurle, plus fort encore en apercevant les carcasses des animaux. Un chat gonflé de putréfaction vient s'éventrer au pied de la pauvre femme, libérant un fluide vert et rouge odorant. Une odeur de mort envahit alors le palier, ce qui a pour résultat de faire vomir la voisine. Elle court alors se réfugier chez elle, une main collée sur la bouche, et décide d'appeler la police. 20 minutes plus tard, on frappe à la porte de Pierre. Des policiers en uniforme sont devant chez lui. Il met du temps à leur ouvrir, alors ils insistent et frappent plus fort. Pierre va ouvrir, il ne se doute de rien. Dans son salon, une pile de chats morts et suintants s'est érigée sur d'anciens tas de détritus en décomposition. Les flics entrent chez lui et lui expliquent pourquoi ils sont là. Pierre commence à paniquer, il entend des bribes de phrases. La voisine a appelé, des animaux morts, appartement insalubre. Ils lui disent qu'ils vont l'amener ailleurs pour sa sécurité et qu'il ne peut pas vivre ici, dans cette crasse et ce désordre immonde. Alors Pierre s'énerve et se met à hurler. Il doit rester ici, il doit empiler toutes ces choses, il doit rêver et empiler, empiler toujours plus pour rêver. Empiler encore et encore pour sauver l'espèce humaine, pour empêcher la destruction de la Terre. C'est le seul but de son existence, ce pourquoi il est sur Terre. Il leur explique que c'est grâce à lui qu'ils sont encore tous en vie, grâce à lui et à ses monticules de déchets. Il leur dit aussi qu'il n'est pas le seul et que si l'un d'entre eux ne faisait pas sa part de travail, la Terre serait anéantie. Évidemment, personne ne l'écoute. Ils voulaient tous rentrer chez eux et ne plus penser à ce pauvre type qui délire seul dans son salon, puant la mort. Alors, ils l'amènent dans un centre qui pourra s'occuper de lui. Un des médecins lui parle d'une maladie. Il l'appelle le syndrome de Diogène. Mais Pierre sait au fond de lui que ça n'a rien à voir avec ça. Il fait partie de ceux qui doivent empiler pour sauver les hommes d'une fin annoncée. Au bout de 2 semaines d'enfermement, de cachets et de plateaux repas infects, Pierre n'est plus que l'ombre de lui-même. Il pleure intérieurement. Il sait que même si les autres continuent à empiler, il suffit qu'un seul d'entre eux arrête pour que les catastrophes commencent. D'abord un tsunami, puis un tremblement de terre, une éruption volcanique et plusieurs tempêtes de sable plus tard. Pierre hurle qu'il veut sortir pour empiler. Il doit absolument empiler. Des motos, des radiateurs et des cadavres de chiens. Personne ne l'écoute, ils ont tous la télé ou écoutent la radio, mais ne comprennent pas pourquoi ni comment toutes ces catastrophes arrivent. Un soir, Pierre arrive à s'échapper de l'asile. Il rentre chez lui. Sur la route, il a récupéré 2 siphons déviés, une bassine en plastique bleu et une tripotée de rats morts, due à l'inondation et au débordement des égouts de ces derniers jours, à cause du déluge. Il rentre enfin chez lui. Il doit empiler tout ça, mais il défaille aussitôt en regardant son salon. Il est vide, propre, bien rangé. Plus de tas, plus de choses empilées, plus de détritus et de cadavres en putréfaction. Il est trop tard. Il laisse tomber ce qu'il tient dans ses mains et se rapproche de la fenêtre du salon. Une 10aine de policiers entrent à leur tour. Ils l'ont enfin retrouvé. Ils se rapprochent de lui et au moment de lui mettre la main dessus, tous restent pantois devant la fenêtre. Tous assistent à la même scène. Là, devant eux, à travers la fenêtre, ils peuvent tous voir ce que les empileurs redoutaient le plus. L'un d'eux a échoué, alors tous pleurent. Ils regardent par la fenêtre. Les policiers en font de même. Ils regardent tous la même chose. Une immense boule blanche, l'astre de la nuit, blanche comme du marbre. Tous la regardent tomber, sous les hurlements de la rue. La lumière devint plus forte, tandis que certains s'aperçoivent que la peau de leur visage fond et coule sur leur uniforme. Lambeaux de chair liquide et matière rose, leur faisant à chacun un masque grotesque qui annonce la fin du monde. Nous avons tous des tocs. On fait demi-tour pour être sûr d'avoir bien fermé sa porte. On compte et recompte de petites pièces pour vérifier qu'il y a bien le nombre exact dans la boîte. On aiguise bien plusieurs fois la lame de son couteau avant de trancher une gorge. Non. Désolé, ça c'est moins courant. Certaines personnes souffrant de tocs pensent que s'ils ne font pas leur rituel, il pourrait arriver de terribles choses à leur entourage ou que la maladie pourrait les frapper. Notre cerveau est une machine complexe qui ne cessera de nous surprendre et de nous déstabiliser, nous emmener dans les recoins les plus sombres. Parfois, il me vient à penser que notre cerveau aime à nous rendre la vie compliquée. Juste parce qu'il en a le pouvoir. Il peut nous faire voir des choses ou nous faire entendre des sons qui n'existent pas. Êtes-vous bien sûr de m'écouter à l'instant même? N'avez-vous pas vu mon visage derrière votre fenêtre? Le nez collé à la vitre? Notre cerveau sait quoi faire pour nous faire sombrer dans la folie. Il peut aussi être très fertile et me permettre de vous raconter de terribles histoires. Comme celle-ci, par exemple. Elle m'a été envoyée par Chris Yukigami. Et tenez-le pour dit, c'est une histoire totalement vraie. Je l'ai intitulée « La maison en colère ». Périssac. Pour moi, l'horreur, le surnaturel, a un nom. C'est Périssac. C'est le nom d'un petit village de Corrèze. Je me considère comme quelqu'un de rationnel. Je ne crois en rien, mais presque 35 ans après les faits que je vais vous raconter, le nom de Périssac m'angoisse toujours autant. J'avais 13 ans, en 1988, et au mois d'août de la même année, je suis parti avec mes parents en vacances en Corrèze, au village de Périssac. C'était la première année que cette maison d'un étage, située à l'entrée du village en face d'un étang, était mise en location depuis la mort de sa propriétaire, une vieille dame qui y a passé toute sa vie. Cette maison était habitée par la même famille depuis 8 générations. Une demeure typique de son époque de construction. Un parquet de bois craquant, des murs ayant subi des siècles d'humidité et de papier peint en motifs fleuris. Des volets en bois forçant le respect au vu des nombreuses années qui les ont vus s'ouvrir et se fermer. Battu par le vent et brûlé par le soleil de l'après-midi. Le rez-de-chaussée était composé de la cuisine et les chambres, la terrasse et le séjour étaient au premier étage. À notre arrivée, les enfants de la propriétaire nous ont prévenu que la maison avait été frappée par la foudre la veille et que la télé était hors service. Pas de souci pour nous. Nous étions en vacances et comptions plus passer nos journées à l'extérieur que devant un écran. La première journée se passa très bien, mais quand le soleil s'est couché, l'ambiance générale de la maison a changé. J'avais du mal à le définir, mais dès que le soir arrivait, l'ambiance devenait plus lourde. Je sentais Une angoisse montait au plus profond de moi, commençant de mes pieds pour finir aux pointes de mes cheveux électrisés. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était que cette angoisse était ressentie aussi par ma mère. Je me sentais vraiment mal. J'avais peur. Peur, mais je ne savais pas de quoi. Les gens du village qui passaient devant la maison avec un air curieux n'arrangeaient rien à ce sentiment d'effroi. Ce soir-là, le temps était lourd. La nuit tomba assez vite pour la saison, et de par la fenêtre de la cuisine, j'aperçus un éclair de lumière déchirant un ciel de ténèbres profond. Ma mère poussa un cri. Elle nous raconta plus tard qu'elle avait vu une boule de foudre passer devant la maison. Après ça, nous sommes montés nous coucher, et ma mère, qui de sa vie n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit, laissa la lumière du couloir allumée toute la nuit. Elle en avait besoin. À cette période, mes parents étaient en cours de séparation. Voulant tout de même passer des vacances avec moi, tous ensemble pour mon bien-être, ils faisaient toutefois chambre à part. Ce détail a son importance car la première nuit, j'avais réussi à m'endormir sans penser à la veille. Mais en pleine nuit, je fus réveillé par ma mère qui, en haut de l'escalier principal, appelait mon père et lui demandait ce qu'il faisait en bas à une heure aussi tardive. Or, ce soir-là, mon père dormait profondément dans sa chambre. Lors des nuits suivantes, ma mère fut réveillée par des bruits de pas très lourds dans la cuisine du rez-de-chaussée et par des bruits de vaisselle ancienne qui s'entrechoquaient. Elle pensa encore que c'était mon père qui était allé dans la cuisine pour aller boire un verre d'eau. Quand elle descendit voir dans la cuisine, il n'y avait personne. Pas de bruit non plus. Plus rien. Un calme assourdissant régnait dans la pièce. Nous avons passé 15 jours dans cette maison, et ce fut 15 jours d'angoisse, dès que le soleil se couchait. Notre chien, qui par habitude avait sa couche dans la cuisine, avait fini, de lui-même, par venir dormir sous mon lit, tous les soirs. Il devait lui aussi, plus que nous, ressentir des choses sombres. Un jour, une chaise pliante s'est repliée violemment sur mes doigts, au moment où je la soulevais. Un autre, une branche d'arbre massive est tombée sur notre voiture au moment où l'on conduisait dans l'allée, pour revenir à la maison après avoir fait des courses. Une autre fois, ce fut une vipère qui tomba de la porte du garage sur ma mère. Une amie de la famille, au moment de nous rendre visite, s'est sentie mal et chancelante. Elle n'a pas voulu rentrer dans cette demeure. Mais ce qui nous effrayait le plus, c'était cette angoisse qui montait à chaque fois que le soleil se couchait, cette atmosphère lourde de conséquences et de ténèbres. Cette sensation poisseuse que quelque chose nous regardait et ne voulait pas que nous soyons là, ici et maintenant. Pour tout vous dire, j'ai presque 47 ans aujourd'hui. Et pourtant, après toutes ces années passées, je ressens toujours de l'angoisse quand je repense à ces 15 jours de vacances dans cette maison. J'ai même recherché la maison sur Google. Et malheureusement, elle existe toujours et elle est toujours disponible à la location. Je ne crois pas aux maisons hantées, mais je suis persuadé que certaines demeures gardent en leurs murs des souvenirs parfois négatifs et lugubres, parfois joyeux et lumineux. Quand quelqu'un de nouveau arrive dans ce genre de maison, celle-ci peut ne pas accepter cette intrusion. Alors, elle le fait savoir. N'avez-vous jamais vu un objet tomber d'une étagère sans que personne n'y ait touché ? Une porte claquée sans aucun courant d'air facétieux. Des objets qui disparaissent et que l'on retrouve cachés sous le sofa. Des lumières qui s'éteignent toutes seules. Ou du sang qui coule sur les murs. Oh, pardonnez-moi, je m'égare. Mais ce sujet me passionne. Je ne crois pas aux fantômes, mais à certaines émotions ou résidus de souvenirs indélébiles qui s'obstinent à rester dans un lieu. Des émotions qui appartiennent à tout jamais à cette demeure, quitte à faire vivre un enfer à ceux qui y habitent. N'est-ce pas, Chris ? venez d'écouter Creepy Story. Ce podcast est écrit, enregistré, raconté et monté par moi, Dan, via la Sentence Prod. Si mes histoires vous ont plu, alors n'hésitez pas à les partager, et ce, avec un maximum de personnes autour de vous. Comme j'aime à le répéter souvent dans mes outros, parler de mes histoires, c'est les faire vivre au-delà de ce podcast, les faire évoluer jusqu'à ce qu'elles deviennent légendes urbaines. J'aime les légendes urbaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, telles que Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, encore, et bien d'autres. Toi-même, tu sais. Laissez-moi un petit message et une note sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Je dois vous avouer que ça me fait toujours et encore plaisir. Vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook, Podcast Creepy Story, ou mon compte Instagram, Dan the Creepy. Si l'envie vous titille, vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires à podcastcreepystory@gmail.com. Je me ferai un immense et horrible plaisir à les lire dans un prochain épisode. Un grand merci à Chris Yukigami de m'avoir envoyé son témoignage qui, comme je vous l'ai précisé bien avant, est totalement et incroyablement vrai. Merci encore, Chris. Un immense merci à tous les Patreons qui ont participé ce mois-ci. Merci à Cora, Vincent, Esther, Coralie, Yop et Indigo, ainsi qu'à Rodolphe et à Claire. Bienvenue, ma chère Claire. Un grand merci à toi et bienvenue parmi nous. Vous pouvez, vous tous qui m'écoutez, participer à ce Patreon. Je vous laisse le lien en description de cet épisode. Je dois vous avouer que je suis en manque d'entrailles fraîches afin d'y tremper ma plume pour écrire toutes les histoires. Donc du coup, tout ceci est plutôt bienvenu. À présent, il est temps pour moi de vous donner rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 47 de Creepy Story, avec des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit.